16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé un beau et doux week-end, que vous étiez évidemment à l'écoute des programmes d'RTL et que vous vous apprêtez à passer une nouvelle semaine en notre compagnie. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h, nous sommes en direct et dans un instant, si vous le souhaitez, nous pourrons échanger sur cette antenne. Bonjour Marcel Hichaud.
Bonjour Flavie.
Vous avez bonne mine, vous êtes sur votre canne.
Toujours ma canne.
Hein, vous clopez, toujours clopin-clopant.
Clopin-clopant, voilà.
Bon, pas de folie ce week-end donc.
Aucune.
Très bien. Je le jure.
Je le jure.
Allez, vous avez été nombreux à nous demander cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler des adultes surdoués. Nous portons parfois un regard admiratif, voire teinté d'envie sur les personnes surdouées, mais quel regard portent-elles sur elles-mêmes et sur le monde qui les entoure? Pourquoi y a-t-il tant d'adultes surdoués en souffrance? Pourquoi ne vivent-ils pas mieux leurs différences? Quelles sont les démarches possibles justement pour se faire aider? Si vous êtes une personne surdouée, si l'un de vos proches est concerné ou si vous vous interrogez justement sur le sujet que nous abordons aujourd'hui, vous pouvez appeler tout de suite le 3210 ou alors vous nous laissez un message sur le blog de notre émission ou encore notre page Facebook. Et nous recevons aujourd'hui pour la deuxième fois la psychanalyste Monique de Kermadec, auteure du livre L'adulte surdoué par Albin Michel. Vous étiez donc notre invitée Monique fin février pour une émission sur les enfants surdoués. Ravie de vous retrouver Monique.
Bonjour Flavie, je suis heureuse d'être de retour.
Eh bien écoutez, tant mieux, on va passer une heure ensemble et c'est vrai que après avoir abordé la dernière fois le sujet des enfants surdoués, on s'est interrogé sur ce que ces enfants allaient devenir. Et nos auditeurs se sont posés beaucoup de questions sur les adultes, donc, dits surdoués. Alors, d'abord, est-ce qu'un adulte surdoué a forcément été un enfant précoce ?
Bien sûr, parce que les talents, je dirais les talents existent, ils peuvent se révéler, ils peuvent devenir absolument manifestes, mais parfois ils peuvent rester cachés aussi. C'est la raison pour laquelle nous avons des adultes qui sont surdoués et qui l'ignorent aujourd'hui, et il est grand temps qu'ils en prennent conscience.
Mais est-ce qu'ils se sentent surdoués ?
Pas nécessairement. On a tendance à associer au surdon ou à la douance, à la surdouance, une réussite et une réussite exceptionnelle. Or, on peut être tout à fait doué et ne pas avoir le sentiment de s'être accompli ou d'avoir réussi.
Mais est-ce qu'on se sent différent quand même? Est-ce que ce sont des gens qui, enfants, se sentaient différents et qui, quand ils apprennent justement ce que vous appelez la surdouance, permettent tout à coup de faire un lien avec un moment où, dans leur enfance, ils se sont dit, il y a quelque chose qui cloche, je ne sais pas comme
les autres. Vous avez raison, ce mot différent, c'est très important parce que la première chose que ces adultes ont remarqué, mais ils l'ont remarqué dès l'enfance, c'est qu'ils étaient perçus par les autres comme étant différents et eux-mêmes se demandaient pourquoi ils n'arrivaient pas à être exactement comme les autres.
Est-ce qu'on peut, Monique de Kermadec, déceler une surdouance chez un adulte, je dirais d'âge mûr, aux alentours d'une quarantaine d'années?
Bien sûr, et j'ai reçu un courrier récemment qui m'a vraiment fait le plus grand plaisir. C'est une personne de 80 ans qui m'a écrit une lettre magnifique, qui après avoir lu le livre m'a dit « j'ai enfin compris mon fonctionnement après autant d'années ».
Alors quel est leur fonctionnement justement devenu adulte?
Alors, il y a certains traits de personnalité qui les distinguent peut-être des autres. C'est très souvent une grande intensité, une grande énergie, une grande sensibilité. C'est le besoin aussi, une grande exigence, le besoin que les choses puissent être faites et bien faites. Très souvent, on les perçoit comme des personnes qui sont dans le trop. Tu vas trop vite, tu vas plus vite que la musique, tu en veux toujours trop. Et je ne veux pas dire que toute personne hyper exigeante est nécessairement surdouée, mais ce point de personnalité est quelque chose qu'ils partagent entre eux.
On reviendra en détail sur les différents traits de caractère, évidemment, et les différents profils. Vous voulez rajouter quelque chose, Marcel ?
Je voulais simplement dire que le surdon peut se manifester de manière très diversifié. Et suivant qu'il se manifeste sous une forme plutôt intellectuelle, de questionnement, etc., là, il va y avoir une inadaptation au monde social parce que c'est plus simple de faire que de penser. Et quand vous pensez, pour après entrer dans l'action, c'est compliqué. On arrive à avoir des gens qui sont inadaptés au monde social. Alors qu'à l'inverse, s'ils sont des grandes capacités, par exemple mathématiques, ils vont aller sur un rail parce qu'on va voir tout de suite qu'ils sont très intelligents.
Ah oui, vous avez raison de souligner ça. C'est effectivement très important.
Mais alors justement, est-ce que tout à coup le diagnostic adulte de la surdouance peut avoir un impact absolument néfaste, dévastateur dans la vie d'un adulte surdoué? Une vie s'est écrite, elle convenait plus ou moins bien, un choix d'un métier qui convient plus ou moins bien, et tout à coup à 45 ans, on apprend que si on avait été décelé surdoué plus tôt, peut-être que notre avenir aurait été différent.
Alors j'ai été vraiment très heureuse parce que tout le courrier que j'ai reçu ou les mails appels que j'ai reçus ont été des témoignages qui ont montré qu'en fait, la découverte de cette douance au travers de lectures ou de l'écoute d'une conférence ou d'une émission comme la vôtre a un effet libérateur. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est comme si les pièces du puzzle s'assemblaient et que la personne pouvait enfin comprendre quelque chose sur elle-même. Donc,
Mais est-ce qu'il y a une remise en question de sa propre vie dans ces moments-là ?
Alors disons que oui, ça peut amener la personne à se dire, mais au fond, peut-être que je dois y croire encore, que je peux faire plus, qu'est-ce que je peux envisager de faire ? Et il peut y avoir aussi un changement dans les rapports avec les autres. Je me sens un peu plus affirmée aujourd'hui, je ne suis pas simplement un zombie ou quelqu'un de bizarre, mais je suis quelqu'un qui a peut-être quelque chose à apporter.
Donc ça veut dire qu'apprendre son caractère surdoué est systématiquement une libération pour ceux qui le vivent ?
Je le crois vraiment intensément, oui.
En tout cas, si c'est votre cas, vous chez vous, qui nous écoutez, si vous avez découvert dernièrement que vous êtes particulièrement, est-ce qu'on peut dire précoce pour un adulte ?
Je non, ne sais pas. Bizarre.
Plus précoce, mais en tout cas surdoué. Je vous invite à nous appeler et à nous expliquer justement quel impact ça a pu avoir sur votre vie. On se retrouve, c'est au 32-10 que ça se passe. À tout de suite.
La vie flamand sur RTL.
En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL.
Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 16h, la vie flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
L'adulte surdoué, apprendre à faire simple quand on est compliqué. C'est le titre de l'ouvrage de la psychanalyste Monique de Kermadec qui est votre invitée aujourd'hui jusqu'à 16h. On commence à avoir évidemment des réactions sur notre blog. Je vous invite à composer le 3210 si vous voulez témoigner. Monique de Kermadec, est-ce qu'il est possible de se faire diagnostiquer à n'importe quel âge ?
Bien évidemment, je pense qu'on peut bien sûr passer des tests et les fameux tests d'intelligence qui mesurent une intelligence cognitive peuvent être passés jusqu'à plus de 80 ans. Et autrement, bien sûr, que si on est surdoué dans un autre domaine sportif, artistique, ça va être la cooptation de pairs, ça va être des spécialistes qui vont confirmer ce don exceptionnel, mais il n'y a pas d'âge pour poser la question d'un don ou d'un don qui nous distingue, je dirais, du lot.
Vous vouliez revenir sur la question que je posais tout à l'heure, quant au fait de se retourner sur sa propre vie quand on apprend qu'on est surdoué d'une façon tardive.
Parce que nous avons tendance à associer être surdoué avec une réussite quasi systématique. Et la réussite, bien sûr, peut venir assez rapidement, mais dans de nombreux cas, cette réussite n'apparaîtra que plus tard dans la vie. Et il est important de ne pas mettre en équation si je n'ai pas réussi brillamment à 25 ans ou à 35 ans, cela veut dire que je n'ai rien de spécial à contribuer.
Alors vous qui faites régulièrement passer des tests dits d'intelligence, comment réagissent en général les adultes qui apprennent leur surdouance ?
J'ai des réactions très variées. Certaines personnes ont besoin d'une confirmation donc ne sont pas énormément étonnées. J'en ai d'autres qui peuvent être assez émues parce qu'elles doutaient d'elles-mêmes, elles avaient des doutes sur leur capacité, donc sans entendre dire par quelqu'un d'extérieur qu'effectivement il y a là des dons à prendre en compte et quelque chose d'important. Et puis certaines personnes très émotives peuvent bien sûr avoir une réaction émotionnelle.
Est-ce que leur vision du monde change à ce moment-là ?
Je pense que la vision du monde change et surtout que leurs attentes ou leurs attentes peuvent changer parce qu'à ce moment-là, il y a une nouvelle permission de faire et surtout d'aller chercher quelque chose sur soi.
Donc ça veut dire qu'un adulte qui est diagnostiqué surdoué peut porter un regard différent même sur lui-même et sur ses aptitudes à changer les choses ?
Oui, parce qu'il n'est plus uniquement quelqu'un de bizarre ou quelqu'un qui va plus vite que la montre. Il est maintenant quelqu'un qui a la capacité à comprendre rapidement, ce qui est beaucoup plus c'est important.
Et à mettre à profit. Vous vouliez dire quelque chose, Marcel, parce que Marcel, il est rapide aussi aujourd'hui. Donc on ne sait pas trop si vous voulez parler, pas. Alors allez-y.
Je voulais dire qu'il faut, vous savez, pour s'épanouir, il faut une rencontre. Très souvent, on est mis dans des cases, notamment à l'école. Et quand on est standard, on rentre dans des cases standards. Mais quand on a une appétence particulière, imaginons que vous ayez un don particulier pour la peinture. Si vous ne rencontrez jamais la peinture, vous ne pourrez jamais l'exercer. Or, dans cette diversité des talents et des dons, on a une palette vraiment infinie. Certains vont être très doués en sport, c'est une vraie intelligence.
Mais ça veut dire du coup, c'est plus légitime, quoi.
Oui, mais s'ils n'ont pas rencontré la personne ou la matière, ils n'y arriveront jamais.
Monique ?
On dirait que vous lisez dans mes pensées.
Il fait de la télépathie, il pique les pensées des invités.
Tout à fait. Non, c'est un point tout à fait important. Je crois que la douance a besoin d'une rencontre, quel que soit l'âge à laquelle cette rencontre va avoir lieu. Et c'est le regard extérieur aussi qui peut confirmer cela.
Alors justement, est-ce qu'il y a un décalage entre la perception qu'un surdoué a de lui-même et la façon dont son entourage le voit ?
Il y a forcément un décalage, puisque l'entourage peut soit ne rien percevoir, percevoir ce qu'il présente comme quelque chose de négatif, ou alors bien percevoir le talent de la personne mais se mettre en rivalité et avoir donc une attitude agressive à l'égard de cette personne. Oui, il y a un décalage. Par contre, il peut y avoir une rencontre extraordinaire, c'est-à-dire une communauté d'esprit, une complicité. Et j'avais envie de souligner, parce que vos interventions m'ont fait penser, avoir le plaisir de rencontrer des personnes avec lesquelles on s'entend sans même avoir à mettre les mots.
Oui, ça arrive aussi, bien sans sûr, être surdoué d'ailleurs.
Je ne sais pas, je pense qu'il y a quelque chose là qui est...
Il y a une reconnaissance,
qui est dans l'air. Oui, oui.
Vous pensez qu'il y a une reconnaissance. Je voudrais qu'on revienne sur le regard que la personne surdouée porte sur le monde. À quoi ressemble le monde extérieur pour elle ? Parce que c'est quand même synonyme visiblement d'angoisse quand on lit votre ouvrage.
Il y a deux grands pôles. Je dirais que pour ceux qui ont réussi, le monde extérieur est un lieu de... C'est une grande cour de récréation, oui, dans laquelle on va découvrir des tas de choses et c'est merveilleux. Les opportunités arrivent avec chaque journée. Après, le surdoué qui est malheureux, le surdoué qui s'est senti freiné, peut ressentir une immense colère à l'égard de ce monde, qu'il a malmené, de ce monde qu'il a incompris, qu'il a mal compris. Certains surdoués, hélas, se sont déprimés et eux ne regardent plus tellement ce monde. Ils n'osent plus tellement le regarder de peur d'être déçus. Donc on a des regards très très différents.
Mais alors ça veut dire qu'il faut diagnostiquer un surdoué pour lui permettre de bien vivre dans notre société aujourd'hui ?
Moi je dirais qu'il suffirait déjà, sans nécessairement passer par des tests, que quelqu'un reconnaisse le positif qui est en cette personne. Cela en soi déjà est une manière de venir en aide à l'adulte surdoué. Après qu'il veuille confirmation et qu'il aille rechercher par des tests ou par une rencontre avec un spécialiste quelque chose de plus sur lui-même ou sur elle-même, on peut le comprendre. Mais au départ, ça va être une rencontre et ça va être un regard qui accepte de manière positive ce qu'il a apporté.
Alors justement, le regard que la société porte sur ces gens différents, quel est-il ? Parce que c'est comme, il y a comme une peur, voire un rejet aussi.
Alors la société peut être ravie, elle peut être ravie en se disant mais c'est formidable d'avoir quelqu'un comme ça. Je sais que de rencontrer quelqu'un qui est très intelligent, c'est un grand bonheur. C'est un bonheur parce que la personne a son regard sur le monde qui est différent d'une autre ou qui peut ajouter une autre dimension à une autre et donc on s'enrichit. Certains regards peuvent être beaucoup plus agressifs parce que la personne se met tout de suite en rivalité. Si la personne se met en rivalité, les choses ne vont pas très bien se passer, bien sûr.
Parce que les personnes supérieurement intelligentes sont assez étranges.
Mais parfois elles sont perçues comme condescendantes, elles donnent l'impression de mépriser l'autre. Or, j'ai rarement rencontré, je dirais même, je n'ai quasiment jamais rencontré un adulte surdoué qui jugeait les autres et se considérait supérieur. Lorsqu'il y a une véritable intelligence, il y a quand même une intelligence du cœur.
Voilà, et puis le doute qui nous fait toujours avancer.
En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL.
On est fait pour s'entendre.
Monique de Kermadec, vous êtes psychanalyste et vous êtes notre invitée spécialiste, je dirais, de l'adulte surdoué en France. Et je vous propose tout de suite de partir dans le centre. Florence a écouté notre émission, elle était très sensible au sujet que nous abordons aujourd'hui. Bonjour Florence.
Bonjour.
Merci de nous avoir appelé, Florence. Je me permets de donner votre âge, Florence, et puis je vais raconter votre parcours si vous le voulez bien, et puis je vous laisserai après évidemment intervenir. Vous avez aujourd'hui 55 ans, Florence. Vous êtes, il est spécifié ancienne surdouée, mais je pense qu'on le reste toujours. En tout cas, vous avez un bagage de 12 ans d'études après le bac, un bac que vous avez eu à l'âge de 13 ans. Et ensuite, vous êtes partie, vous avez pris la direction de la médecine, et visiblement, vous n'avez pas trouvé votre place ni dans la société, ni dans votre métier, ni dans votre vie personnelle, voire sociale, hein, si j'ai bien compris.
Absolument.
Où en êtes-vous ?
Alors moi, je me suis entièrement retrouvée dans votre discussion. Vous pouvez cocher toutes les cases.
D'accord. Bon, écoutez, ça veut dire qu'on est... Bon, on en a encore d'autres à cocher. Mais votre parcours, si vous deviez, en regardant dans le rétroviseur, après on parlera d'aujourd'hui, mais comment est-ce que vous pourriez définir votre parcours et vous-même et vis-à-vis des autres ?
Alors, un parcours de solitaire, parce que quand on est précoce, à mon âge, on n'a pas d'amis. Moi, à 13 ans, quand j'étais en terminale, j'étais avec des gens qui avaient 20 ans, qui sortait, qui allait en boum. Moi, j'avais pas de nichon, j'avais rien du tout. J'étais la petite fille avec ses couettes. Les professeurs vous surprotègent, donc on vous déteste d'office, hein, parce que ou alors on vient à côté de vous parce que vous pouvez donner les réponses. Donc c'est un parcours de solitaire. Ensuite, j'ai fait médecine parce que mon père était médecin. Et puis il fallait faire plaisir. Et puis quand on est petit et qu'on a envie de se faire aimer, ben on obéit.
Bien sûr.
Mais ça m'a pas plu du tout. Je me suis embêtée comme un rat mort en médecine. Et puis j'ai fait différents boulots, mais je m'ennuie très très vite parce que j'ai vite fait le tour des postes. Je vois vite que les gens qui étaient au-dessus de moi, sans être prétentieux, étaient pas compétents.
Oui.
Donc je m'ennuyais, donc je partais. Et puis un jour j'ai rencontré l'homme de ma vie.
Ça, c'est bien, ça. Ça change beaucoup de choses, hein, quand on rencontre l'homme de sa vie. Hein.
Oui, ouais. Ça aide. Ouais. Un médecin, et puis...
Un médecin, rebelote. Oui.
Qui est surdoué aussi, le pauvre.
Oui.
Et puis, ça fait deux solitudes, entre guillemets, qui se sont réunies. Et moi, je m'éclate actuellement en faisant des patines sur des meubles.
Voilà, donc vous avez complètement changé.
J'ai changé de vie totalement, un virage total, et puis je m'épanouis dans ce que je fais, enfin.
Alors, on sent votre épanouissement d'aujourd'hui, mais on vous sent aussi marqué, hein, par une quête de cet épanouissement qui n'a pas été facile, hein, puisque visiblement la surdouance, comme on l'appelle Monique de Kermadec, a été une entrave, hein, à cet épanouissement. Aujourd'hui, vous ne vivez, j'imagine, pas seulement avec l'homme de votre vie. Est-ce que d'un point de vue social aujourd'hui, est-ce que vous avez des amis?
D'un point de vue social, j'ai très peu d'amis.
Ouais,
j'en ai quasiment pas. Je suis toujours différente des autres. Je vois la faille, hélas. Parce que je trouve que c'est une tare chez moi. Je vois la faille chez l'autre, immédiatement.
Est-ce que vous êtes épuisée par votre surdouance?
Non, j'ai fait ma résilience.
Oui, parce qu'effectivement, Monique de Kermadec, ce que j'entends, c'est Florence, elle dit je vois la faille. Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les rapports aux autres ne sont pas normaux.
Mais ce qu'elle vient de me dire me touche beaucoup parce que ça souligne bien le besoin d'un accompagnement attentif des adultes chez ces enfants surdoués qui, très jeunes, sont vraiment en grand décalage avec leurs camarades de classe ou d'études. Je comprends aussi le fait qu'elle s'ennuie vite parce qu'elle a besoin de nouveautés, elle a besoin, et au fond le choix d'aujourd'hui lui permet d'avoir de nouveaux projets, donc et quelque chose de tout à fait palpable, on peut réaliser ce que l'on a fait.
Par contre, vis-à-vis de ma famille, je fais un métier qui n'est pas noble. Hein.
Parce que la noblesse, c'est nous qui la donnons. Je crois qu'il va falloir un moment se reconnaître ce droit qui est de décider par nous-mêmes que c'est notre travail et c'est notre investissement qui donne de la noblesse à ce que nous faisons. J'ai beaucoup aimé aussi votre besoin d'une relation à temps. Je vous comprends. Moi, je crois qu'on n'a pas besoin d'avoir 30 copains. Dans la mesure où nous avons quelques relations très profondes, notre vie peut quand même nous donner le sentiment d'être riche, quoi qu'en disent les autres, car il y a une dictature qui veut aujourd'hui que l'on ait beaucoup de copains, et je pense entre autres depuis Facebook où on a 1200 amis ou 25 000 amis qui nous disent qu'ils aiment ce que nous faisons. Nous devons nous libérer de cette pression et ne pas nous sentir handicapés si nous avons un petit nombre seulement de personnes qui comptent dans nos vies.
Mais ça me convient d'en avoir peu. Au moins je sais pour qui j'existe, quoi. Mais avant j'avais ce besoin de plaire, il fallait absolument que je sois estimée. Alors je m'humiliais, hein.
C'est-à-dire
que je disais au standard, pour être comme les autres, quand j'étais au lycée, j'étais insolente pour être punie. J'étais super contente, je disais pas, mais j'étais super contente d'être collée, quoi. J'étais comme les autres.
Monique de Kermadec, l'estime de soi, c'est vraiment quelque chose que vous soulevez. On reviendra en détail, hein, après avoir parlé avec Florence, mais effectivement, l'estime de soi est terriblement atteinte. Hein.
Tout dépend de l'enfance et du retour que l'on peut avoir sur sa douance. S'il y a un retour positif, l'estime de soi se construit et se construit bien. Si par contre il y a une ignorance, voire une agressivité, l'enfant, l'adolescent et l'adulte va continuer à douter de ses aptitudes. Avoir une faible estime de soi.
Florence, comment vos parents et votre famille réagissaient-elles justement au fait que vous étiez une enfant surdouée ?
Ils étaient fiers, j'étais un singe savant.
Ouais. Donc vous avez été mise en avant aussi pour ça ?
Ouais, tout le temps. Donc détestée par les enfants de mon âge. Moi, je n'ai pas d'amis sur copains d'avant, j'en ai pas. Aucun. Je suis inscrite, mais je me dis ça sert à rien. Je n'ai... Ou alors on me dit, tiens, qu'est-ce que t'es devenue ? Ah, tu peins des meubles, pourtant t'étais promue à une brillante carrière. Ouais, et je m'en fous de la carrière. Cliché. C'est pas plus important.
Vous avez beaucoup de sagesse et je vous félicite.
Est-ce que vous avez dû beaucoup travailler, alors en dehors du fait d'avoir rencontré l'amour et d'une personne comme vous, est-ce que vous avez beaucoup travaillé sur vous ? Est-ce que vous avez été aidée aussi psychologiquement, Florence, pour pouvoir aujourd'hui porter ce regard plutôt serein sur la situation ?
Non.
Vous l'avez fait toute seule, vous-même ?
Oui, puis c'est les rencontres. Si j'étais pas partie, si à 40 ans, je me dis, si tu changes pas ta vie, Florence, c'est pas la peine, tu peux aller te jeter dans la Seine, t'as tout raté. Et j'ai tout quitté, et puis j'ai eu de la chance. Voilà, il fallait oser. J'ai fait ce que j'aimais.
Bon, écoutez, en tout cas, visiblement, aujourd'hui, vous êtes plutôt épanouie et ça s'entend. Je vous remercie vraiment de nous avoir appelé pour nous faire part de votre témoignage.
Vos émissions sont super, mais là, vous pouvez cocher toutes les cases, j'étais dessus.
C'est super. Merci beaucoup, Florence, en tout cas. Et puis, merci pour votre fidélité, ça nous touche. Ainsi
que je suis très fidèle.
Que toute l'équipe. Merci à vous, Florence.
À très bientôt,
et puis, on vous laisse patiner vos meubles en écoutant RTL.
En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL.
Vous écoutez RTL.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Merci à tous ceux qui nous appellent au 3210, ceux qui nous laissent des messages, qui sont tous nos amis si nombreux de notre page Facebook ou encore sur le blog. Merci à tous de vous diriger vers nous. Aujourd'hui, nous parlons des adultes surdoués avec notre invitée, la psychanalyste Monique de Kermadec. Monique, je vous propose, puisqu'on a beaucoup d'appels, de repartir tout de suite sur un nouveau témoignage. C'est Karine qui a 29 ans. Bonjour Karine.
Bonjour.
Karine, vous avez découvert il y a 2 ans seulement que vous êtes donc une adulte surdouée après avoir été une enfant précoce. Pour vous, ça a été une véritable libération de la parole, le fait d'apprendre que vous étiez surdouée.
Oui, effectivement, tout simplement parce que jusqu'à l'âge donc de 27 ans, j'étais vraiment persuadée d'avoir un gros problème.
Lequel ?
Mais j'étais pas connectée avec les gens, en fait. J'étais complètement décalée tout le temps. Je les trouvais souvent inintéressants. Et par conséquent, je me trouvais, moi, assez prétentieuse de les trouver inintéressants.
Oui. Non, mais je vous écoute. Vous avez senti dès le départ que vous aviez un problème relationnel comme ça avec les autres, que les rapports étaient biaisés?
En fait, depuis toujours, effectivement, puisque à l'école, j'étais tout le temps toute seule.
Ouais.
Quand j'étais en CE1, l'institutrice avait convoqué mes parents pour leur dire qu'elle était inquiète parce que j'étais tout le temps toute seule, très renfermée, extrêmement timide. Et donc, elle voulait savoir s'il fallait pas me faire voir une psychologue scolaire, savoir s'il y avait pas un problème autre ou quoi que ce soit.
Ouais.
Et mes parents ont refusé catégoriquement de me faire voir une psychologue. Après, voilà, ça, c'est quelque chose qui les a concernés et qui les concerne encore. Durant toute ma scolarité, en fait, ça a été comme ça. À partir de la seconde, donc je suis arrivée en seconde à 13 ans. Donc j'étais toute jeune, j'étais dans une classe de redoublants. Donc ça a été encore plus difficile.
Oui, j'imagine.
Et j'ai complètement rejeté en fait le système scolaire à ce moment-là parce que je trouvais les autres véritablement inintéressants. En plus, pendant l'adolescence, on est forcément beaucoup plus enclin à trouver les autres inintéressants. Et quand j'ai découvert justement que j'étais surdouée, j'en ai beaucoup voulu à mes parents parce que je voulais faire des études, je voulais faire plein de choses, et puis finalement j'ai rien fait du tout. Non, j'ai rien fait du tout, c'est le cas de le dire. Oui.
En fait, vous avez vraiment le sentiment d'être passé à côté de vous-même pendant plusieurs années, à côté aussi de tout ce que vous auriez pu faire et construire, parce qu'on ne vous avait pas expliqué qui vous étiez réellement. Il vous manquait véritablement quelque chose.
Voilà, c'est ça. Je me cherchais du jour où je me suis trouvée, en fait, ça a tout changé.
Alors l'avantage, c'est que vous vous êtes trouvée, on va dire, entre guillemets, à l'âge de 27 ans, ce qui fait que vous avez encore évidemment énormément de projets et de temps devant vous. Alors si vous n'avez pas bossé au moment de l'adolescence à l'école, vous avez décidé de reprendre vos études, là, c'est ça ?
Exactement. Alors en fait, il faut savoir qu'au lycée, c'est pas que je ne travaillais pas, c'est que finalement, je travaillais différemment.
Oui, je comprends.
Et quand on travaille différemment, on ne rentre pas dans le moule scolaire. Enfin, on ne rentre pas dans ce que l'éducation nationale attend de nous. Donc finalement, les réponses que je donnais étaient les bonnes réponses. Mais comme ça ne rentrait pas dans le moule scolaire, J'avais toujours des bulles.
Oui, c'est ça. Mais vous étiez différente. Vous aviez un mode de fonctionnement différent. Mais ça n'a c'est pas ça. Payé. Mais là, aujourd'hui, vous expliquez que vous avez décidé de travailler pour vous en devenant psychanalyste pour ne plus être prisonnière du monde, de l'entreprise et surtout pour ne plus être prisonnière de vous-même.
Exactement. Donc, j'ai repris mes études donc avant d'être détectée, en fin de compte.
Oui.
Et puis, je me suis vraiment épanouie dans l'institut dans lequel je suis pour justement apprendre les bases du fonctionnement de la psychanalyse.
Ouais.
Et voilà, maintenant, j'attends mon autorisation pour pouvoir justement pratiquer moi-même.
Alors,
bientôt.
Ah bah vous allez oui, parler à votre futur collègue, Monique de Kermadec.
J'avais envie de vous dire que j'appréciais votre parcours parce que dans les faits, vous soulignez bien l'importance d'abord d'être conscient de sa douance, mais aussi de l'aborder en tant que personne entière. Et ce travail que la psychanalyse, qu'une thérapie peut permettre de faire, va permettre de ne pas faire de la douance une simple étiquette, mais quelque chose qui s'intègre bien dans votre fonctionnement global. Donc, je suis ravie. Et par ailleurs, je pense que former, vous allez pouvoir aider d'autres personnes qui parfois ont du mal à trouver un thérapeute qui est conscient de la place que peut tenir la douance et de ne pas l'aborder uniquement comme une pathologie ou comme une étiquette.
En tout cas, ce que j'entends aussi dans le témoignage de Karine, Monique, c'est que des parents qui sont en négation de la douance, comme vous l'appelez, des enfants, ça a une véritable conséquence sur leur épanouissement et leur chemin.
Malheureusement, certains parents n'ont pas les clés pour comprendre. Oui. Certains le pourraient, mais d'autres ont besoin d'être informés pour pouvoir mieux accompagner leurs enfants.
On l'a bien senti en vous entendant, Karine. En tout cas, bonne chance à vous, bonne suite à vous.
Hein. Merci.
Et puis merci de nous avoir appelés. Puis vous restez évidemment à l'écoute de cette émission jusqu'à 16h.
Avec grand plaisir, merci beaucoup.
On vous embrasse, Karine. Merci pour votre appel.
Excellente journée, au revoir.
Au revoir.
En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Monique de Kermadec, Gersand, qui est à l'écoute de cette émission, nous a laissé un message. Merci pour cette émission. J'ai les larmes aux yeux en entendant Monique de Kermadec. Au-delà du fait que j'étais une enfant précoce et surdouée, j'ai entendu toute la symptomatologie évoquée à l'âge adulte et je me suis reconnue. J'avais entendu il y a quelques années que j'étais brillante par le psychiatre qui me suivait, mais je n'avais pas voulu entendre ce qu'il voulait dire. Cette émission m'a fait chaud au cœur car je me sens moins seule. Voilà, c'est aussi ça, cette émission. C'est qu'on s'adresse aux auditeurs qui, effectivement, à un moment donné, ressentent et de la chaleur et une certaine résonance dans les différents témoignages. Monique de Kermadec, quels sont les obstacles à l'épanouissement justement des personnes surdouées? Qu'est-ce qui les bloque?
Nous avons vu parmi les témoignages d'aujourd'hui qu'un des premiers obstacles, bien sûr, c'est le fait que la personne n'avait pas conscience de ses dons, de sa douance. Ça peut être aussi par le fait que la personne, tellement désireuse d'être acceptée, d'être aimée, a oublié d'être elle-même et s'est fondue dans le désir de l'autre et a commencé à vivre la vie de quelqu'un d'autre plutôt que la sienne. Et ça, je crois que c'est un point très important. J'en ai beaucoup parlé, j'ai parlé du faux self, parce que il est vrai qu'à force de vouloir être acceptée et être aimée, nous pouvons perdre conscience de ce qui est vraiment important pour nous, de nos propres positions, de nos propres idées.
En nous conformant, en fait, à l'opinion et au désir des autres.
Voilà, au désir des autres. Je pense aussi que ce qui peut être très important, c'est parfois la prise de risque. Et certaines personnes se retrouvent bloquées parce qu'ils n'osent plus prendre de risque. Ils sont déjà en souffrance et ils ont le sentiment que s'ils échouaient une fois de plus, ce serait absolument dramatique. Donc, ils n'osent plus le faire. Et si j'ai vraiment, vraiment un conseil à leur donner, c'est que, bien évidemment, il n'est pas question de sauter du haut d'une falaise, mais les risques se prennent petit bout par petits bouts. Ils permettent comme ça d'avoir de petites victoires après petites victoires et de consolider à nouveau la confiance en soi.
Alors comment débloquer tout cela? Est-ce que il faut, bon, j'ai cru comprendre quand même qu'il fallait passer par le diagnostic, hein, vraiment de
oui, je crois que
la douance.
Voilà, arriver à un diagnostic ou tout au moins arriver comme certains et comme cette auditrice, mais elle a déjà été testée, au moins arriver à se reconnaître dans ce qui est dit autour de la douance pour pouvoir trouver un ou des interlocuteurs. Car on l'avait dit tout au départ de l'émission, l'important c'est de ne pas rester seul avec la conscience qu'il y a quelque chose de différent, mais grâce à un autre qui peut être un spécialiste, mais parfois qui peut être un très bon ami, ou l'homme de sa vie, comme nous a dit, ou la femme de sa vie.
Oui, absolument. Voilà. Parce qu'il y a des hommes, on n'a eu que des femmes aujourd'hui en ligne, mais il y a des hommes surdoués quand même.
Bien évidemment.
Parce qu'on s'est surprise effectivement de voir beaucoup de femmes nous appeler. Mais alors, est-ce qu'il faut systématiquement passer par un accompagnement une psychothérapie ?
Ce n'est pas obligatoire. Tout dépend du degré de souffrance, tout dépend de l'état dans lequel on est au moment où on prend conscience de cette douance. Si on est parfaitement immobilisé, si on est déprimé, si on est trop en colère, il est évident qu'à ce moment-là, nous avons besoin d'une aide. Parfois, la prise de conscience en elle-même suffira pour faire redémarrer la machine.
Ce que j'entends en tout cas depuis le début de cette émission, c'est que le problème essentiel n'est pas simplement un regard sur le monde ou la façon dont on est perçu par le monde, mais c'est un problème à la base d'identité.
Tout à fait, c'est être, c'est pouvoir vivre pleinement sa vie, c'est pouvoir être pleinement soi-même qui est en question. Nous avons tous besoin de cela au cours de notre existence, et connaître sa douance, prendre conscience de ce que l'on peut faire avec celle-ci, peut nous aider à trouver notre mission, peut nous aider à trouver quelle sera notre contribution.
Monique, les auditeurs qui nous écoutent et qui tout à coup s'interrogeraient ou voudraient passer des tests d'intelligence, on n'a pas donné justement cette clé depuis le début. Que faut-il faire ? Est-ce qu'il y a des véritables tests, des tests qui sont contestables ?
Alors, disons que il y a des tests qui sont plus divertissement qu'autre chose. On en trouve parfois dans des revues, on peut en trouver en ligne,
même sur internet.
Voilà, tout ça. Je crois que à partir du moment où on a décidé de passer un test, il est quand même important de passer un test dont les résultats vont être valides, parce que c'est un test qui est déjà utilisé de longue date et avec des pourcentages fiables quant aux résultats. Donc je ne saurais trop conseiller les personnes, mais je voudrais aussi leur conseiller une chose, parce que le test n'est pas qu'un simple chiffre de QI. Le test, c'est un moment de découverte sur soi. Or, je sais que dans certains contextes, les tests sont passés, je dirais, de manière quasi mécanique, avec trois rendez-vous, une personne qui vous reçoit, une autre qui fait passer le test, et la troisième qui téléphone ou qui vous dit rapidement vos résultats. Le test doit être l'objet d'une personne qui vous rencontre, qui vous écoute, qui va pouvoir interpréter vos résultats en fonction de ce qu'elle a déjà glané sur vous et qui peut donc vous aider à avancer et à progresser. Donc soyez exigeant au moment de passer un test, n'allez pas simplement demander un chiffre de QI. C'est la seule recommandation que je donnerais concernant les tests.
Et seuls les psychanalystes font passer les tests ?
Non, il y a bien sûr, les psychologues cliniciens sont formés, certains sont plus ou moins spécialistes de ceci, et je pense qu'une personne qui veut connaître ceci peut s'informer et trouver ceci, que ce soit en ligne ou ailleurs. Mais il est important de bien choisir le contexte pour que ce résultat soit vraiment valable et puisse bien s'intégrer dans la vie de la personne.
Quel est le coût d'un test d'intelligence ?
Ça varie énormément. Ça dépend un petit peu de la personne qui fait passer le test. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé à travailler avec des enfants précoces, il y a des associations qui donnent des noms de psychologues qui travaillent pour eux. Ces psychologues font un travail tout à fait honnête, mais ces psychologues font un chiffrage de QI. Il y a ces mêmes psychologues qui peut-être dans d'autres contextes font des analyses plus détaillées, donc je ne peux pas donner de tarif de mes confrères ou consoeurs.
Ça va de quoi, de 50 euros à...
Non, ça ne me paraît pas possible. Je veux dire, vous avez besoin d'une formation et d'une formation. Donc, je ne sais pas, ça doit être, j'en sais rien, moi, de 200 à 400 euros, j'imagine, c'est dans la... D'accord. Fourchette de prix.
Très bien. Monique, on se retrouve dans un instant avec Marcel Ichoux pour clore cette émission. À tout de suite.
RTL. En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Marcel Ichoux, vous avez été attentif à ce qui s'est dit dans cette émission.
Très attentif, et surdoué n'est pas surhumain, mais il est différent. Mmh. Et la différence marginalise. Et donc, quand on est marginalisé par le regard des autres, on peut perdre la confiance en soi et aller dans des voies qui ne soient pas les voies de l'épanouissement. Peut-être le maître mot, c'est la rencontre. Mais il faut comprendre qu'il y a divers talents, diverses formes de douance. Vous comprenez bien qu'entre Coluche, Zidane, Mozart ou Einstein, on n'a pas la même forme d'esprit. Et tout ce qui est quantifiable par la psychologie est facilement repérable. Mmh. Mais par exemple, quelqu'un qui serait très doué, qui a un humour extraordinaire et qui va avoir un psychologue besogneux qui lui fait passer des tests, ils se rencontreront jamais. Donc peut-être le maître mot, c'est la rencontre avec la personne qui va pouvoir détecter chez vous. Et dès lors que vous allez être regardé comme quelqu'un de différent et qu'on vous aura compris, bah, c'est là où vous pouvez vous épanouir.
Monique ? Tout à fait. Non, je suis tout à fait d'accord. C'est très important ce que vous soulignez. L'importance de la rencontre, plus que du test, car toute la douance ne se mesure pas par un simple test de QI. Et il est important que les personnes en aient conscience.
Monique de Kermadec, juste avant qu'on se quitte, il nous reste une petite minute ensemble. Je voudrais qu'on balaye quelques idées reçues que l'on peut retrouver dans votre ouvrage. Les surdoués, les adultes surdoués surmontent sans problème les difficultés rencontrées dans leur enfance.
Oui, tout à fait. Bon, on a l'impression que dans la mesure où ils ont de très bons atouts intellectuels, ils vont arriver à résoudre tous les problèmes, y compris les problèmes affectifs de l'enfance. Et ce qui est parfaitement faux.
Voilà, donc ils ne sont pas surhumains comme le soulignait Marcel Ichoux. Les surdoués sont sur deux.
Alors là, je dirais même que la plupart des surdoués ont de grands doutes sur eux-mêmes et c'est vrai qu'on a tendance à penser qu'ils devraient être sur deux.
Le surdoué est performant dans tous les domaines.
Ah,
ils ont des faiblesses aussi.
J'ose espérer, oui, tout à fait, mais ça me paraît normal. On est humain et il est impossible d'être surdoué dans tous les domaines. On peut être très bon dans un domaine et être tout à fait en position de demander de l'aide dans un autre.
Voilà, ce qui est plutôt rassurant et ce qui fait que
tout à coup,
évidemment, on peut partager des choses. Voilà, c'est quand même d'être tous ensemble et de profiter justement de nos différences
et
pour être complémentaires.
Voilà, il n'est pas question de les encourager à rester sur une île déserte, ce serait dommage.
Merci en tout cas d'avoir été notre invitée.
Merci
Monique Flavie,
c'était un vrai bonheur d'être là.
Eh bien pour nous aussi, l'adulte surdoué, apprendre à faire simple quand on est compliqué. C'est l'ouvrage de notre invitée d'aujourd'hui, paru chez Albin Michel. Vous y trouverez plein de clés justement si vous vous sentez concerné et touché par le sujet. À bientôt, Monique de Kermadec. Au revoir, Marcel Ichoux.
Au revoir, Flavie.
À demain, nous allons recevoir le psychothérapeute Jean-Luc Tournier qui a consacré un ouvrage au douloureux sujet que nous avons choisi de traiter, l'enfant exposé à la violence conjugale. Des centaines de milliers d'enfants en sont profondément marqués, traumatisés, quel que soit leur âge et leur sexe. Alors, de quelle manière cette violence les affecte-t-elle? Quelles en sont les conséquences? Quels adultes deviennent-ils? Et comment leur venir en aide? C'est au 3210 que nous attendons vos réactions et vos questions. On se retrouve donc demain dès 15h en direct sur cette antenne. Mais pour l'instant, je vous laisse entre les mains de Philippe Bouvard et des Grosses Têtes. Je vous embrasse, je vous dis à demain.